Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission. La dernière émission de la saison. Oui, j'ai une petite larme là, qui me coule. Évidemment, je vais m'ennuyer de vous autres cet été. On va prendre une petite pause en espérant être là à l'automne. Ensuite, en fin d'émission, on parlera avec Maître Boily puis Nicole Gibault qui était les chroniqueurs à l'émission toute la saison. On va parler du siège à l'ONU de Justin Trudeau. Justin Trudeau a raté le bateau, comme on dit. Il n'a pas eu son siège à l'ONU. On en parle avec Maître Boily. Ensuite, un sujet, on va commencer avec ça. Je reçois Maître Jean-Sébastien Boudreau qui, lui, dans le fond, vient nous parler de... on sait qu'il y avait l'interdiction des rassemblements. Il y a des solutions. On parle là, d'un festival au volant d'humour. Et également, on vous parle aujourd'hui de la réouverture des frontières, bon, qui arrivera en juillet, mais avec les gardes partagées, là, est-ce qu'on pourra voyager avec notre enfant? Qu'est-ce qui arrive si l'autre parent ne veut pas? Donc, on vous parle de tout ça dans quelques instants. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
La pandémie nous a imposé beaucoup de règles. On sait les règles de distanciation. Une des premières venues, de l'interdiction de rassemblement. Au départ, c'était plus de 250 personnes. Après ça, c'est tombé à 50. Après ça, on ne pouvait plus se rassembler. Quand même, il faut continuer à vivre. Et malgré les règles, il y a des solutions. Dans notre domaine, en juridique, souvent, on a un problème, on essaie de le régler. Et on sait que la communauté artistique a été fortement touchée par cette pandémie. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez Fauve. Fauve, là, c'est le festival au volant, festival d'humour qui est fait comme un ciné-parc. Là. Et on reçoit un des organisateurs, Maître Jean-Sébastien Boudreau, qui est avocat aussi, qui est de la Fondation Artera, le président de cette fondation-là. Bonjour, Maître Boudreau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, Fauve, là, ça prenait un bon avocat pour comprendre les règles et pouvoir arriver avec un projet qui est légal. Comment ça a fonctionné là, pour faire ça?
Ben oui, avec notre équipe, nous, habituellement, on organise des courses à obstacles. Cette année, comme vous l'avez dit plus tôt, avec les règles de distanciation sociale, on a dû annuler ou reporter à peu près toutes les courses. On avait des courses prévues au Canada, aux États-Unis, à peu près 18 dans la saison. Donc, avec l'équipe, on s'est retourné et on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on voulait, de un, être capable de réengager notre équipe, être capable d'avoir de travailler avec la culture, d'avoir des shows vivants, de la culture vivante. Beaucoup de gens ont été sur le web, mais avec le confinement, les gens, je pense, ont besoin de sortir de chez eux, ont besoin de se regrouper. Puis comment on le fait en respectant les règles? On a fait des analyses, on a regardé les règles, on a analysé tout ça. On s'est dit la meilleure façon de le faire, c'est en auto. Les gens vont pouvoir venir, avoir du plaisir, tout en respectant les règles, en étant en sécurité. Donc, on a lancé l'idée. Ça s'est fait, comme on dit au Québec, là, on s'est retourné sur un dissous. Mm-hmm. Puis, on a lancé l'idée. On est les premiers à avoir lancé cette idée-là, puis on en est très, très fiers. Puis, la réponse est vraiment bonne. Là. Les gens sont super contents de pouvoir voir un spectacle vivant devant eux, avoir un artiste. Et les artistes aussi étaient contents parce que, comme vous avez dit plus tôt, ils ont besoin eux aussi. Il y en a beaucoup que la scène leur manquait. Puis nous, l'idée, c'était vraiment, on est une petite fondation, on est un petit organisme à but non lucratif, mais on s'est dit, on va prendre le taureau par les cornes, puis on va essayer de faire notre possible pour aider, puis repartir l'économie, puis repartir la culture vivante. Puis finalement, ben c'est super. Bon, on a lancé un premier week-end à Montréal. Là, on vient d'ouvrir un deuxième week-end à Montréal. Et après ça, on part sur la route. On s'en va à Drummondville fin juillet. Et il y aura aussi, dans les prochains jours, probablement d'autres villes au Québec qui seront annoncées. Donc, c'est un super beau projet. On est vraiment contents.
Wow! C'est intéressant à comprendre parce que c'est ça, ça a déjà eu lieu. Là, c'est des, dans le fond, le succès fait que vous continuez. Là, les 3 et 4, 5 juillet prochains, ça recommence. Donc, ça fonctionne et c'est tout une brochette d'artistes que vous avez aussi. On parle de Jean-François Mercier, Jérémy...
Demey,
pardon, c'est ça. Donc, nommez-les, c'est Eddie ouais, King qui est là.
Oui, les grandes crues, Nive, il y a Étienne Dano, on a une panoplie, Mado Lamotte qui s'est joint pour le deuxième week-end, et on a même, on a entendu la communauté montréalaise qui nous dit, ah, ben, c'est bien le fun, mais tu sais, vous faites ça juste en français, donc les week-ends du 10, 11, 12 juillet, donc le 12 juillet, il y aura un spectacle en anglais, donc qui est animé par Mike Patterson.
Okay.
Avec Eman El Husseini, Jess Salomon, Abdul Bout, Derek Séguin, donc un spectacle vraiment en anglais. On a compris la communauté montréalaise qui nous a dit « Montréal, c'est bilingue, s'il vous plaît, faites quelque chose en anglais », donc on le fera. Et après ça, 24-25 juillet à Drummondville, la programmation va sortir, mais ça va être toutes des choses différentes. Donc les gens peuvent venir à un spectacle, peuvent venir à plusieurs spectacles. C'est des spectacles différents. Puis le premier spectacle qu'on a sorti du samedi 4 juillet, c'est vendu en 4 heures. Donc, les gens soif de culture. Ils ont besoin de ça.
Ah oui, c'est essentiel. On s'en rend compte maintenant. Auparavant, des fois, il y en a certains qui osaient dire que la culture, c'était pas utile. C'est très utile. Et parce que on a beaucoup de dates. Quelqu'un qui nous écoute, là, il veut savoir c'est quand dans sa région. Est-ce qu'il y a un site Internet ou...
Oui, idéalement, on va sur le site, c'est fauve, FAUV.ca. Donc, c'est très, très simple. Puis, en plus, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va remettre des fonds à un organisme qui travaille avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale par les arts. Donc, on trouvait que ça faisait du sens. Les impatients,
oui,
c'est un organisme qui est un peu partout à travers le Québec, qui aide beaucoup de gens. Puis, on s'est dit, en ces temps de pandémie, beaucoup de gens ont de l'angoisse, du stress. Venez rire une heure et demie, 1h45. Quand on rit, ben, tu sais, c'est un premier vaccin. C'est pas le vaccin officiel contre la COVID, mais ça va aider au moins à se changer les idées puis à remettre un sourire sur le visage des Québécois, Québécoises. Puis ça, pour nous, c'était très, très important. Là,
ben faire. Oui, un des meilleurs remèdes au monde. Et d'ailleurs, cette fondation-là, j'avais eu le directeur des impatients qui était venu en entrevue, qui nous avait parlé de tout l'impact que ça a sur des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont très affectés par la pandémie. Je voudrais savoir, Maître Boudreau, parce que je ne suis pas allé à ce genre d'événement-là. Bien, quand j'étais jeune, je suis allé au cinéparc, là, mais comment ça fonctionne sur le terrain? Moi, mon premier réflexe, je me dis, bien, ça ne me tentera pas trop, il va y avoir trop d'auto, il va y avoir du trafic, ça va être difficile. Comment ça s'est passé sur le terrain, là?
Ben, nous, les gens vont arriver, on a des placiers, donc les placiers vont aller placer les voitures vont avoir une distance entre elles, les gens vont pouvoir ouvrir la fenêtre, on va avoir des toilettes et tout, mais puis on a tout un staff sur le terrain pour s'assurer d'avoir la distanciation sociale. On aura des food trucks, donc c'est vraiment un happening, là. C'est vraiment un événement, puis les gens vont, le son va sortir comme dans les radios. Donc, le son va quand même être bon. Vous allez avoir un humoriste, deux grands écrans géants. C'est 500 voitures, mais on est au stationnement de l'aéroport de Montréal, le P11. Il a même fallu agrandir le stationnement, tellement la demande est forte. Et puis, on trouvait ça le fun à Montréal d'aller dans le stationnement de l'aéroport. T'sais, on s'est dit, ça, les gens peuvent pas voyager, mais au moins ils vont pouvoir aller faire un tour à l'aéroport puis rire un bon coup. Donc,
ben oui.
Ça va être ça. Puis à Drummondville, ça sera au centre Expo Cogeco.
OK.
Donc, aussi même chose. Ben, on a vraiment une équipe. Nous, déjà, quand on faisait les courses, on était habitué de stationner les gens. On parle, là, quand on faisait des courses à obstacles, on avait entre 5 et 10 000 personnes qui venaient courir par jour.
Oh, okay.
Donc, on est habitué d'aider les gens à se stationner, puis on a déjà tout un plan, puis ça va être fluide.
Bon.
On va aider les gens pour que les gens aient une expérience. On veut que les gens aient une expérience le fun. On veut pas rajouter une couche de stress. C'est agréable,
oui.
C'est plaisant. Vous allez avoir une belle soirée entre amis, en famille, puis c'est quelque chose qui était très, très, très important pour moi.
OK, c'est rassurant d'entendre ça. Et puis aussi, je trouve ça intéressant, j'imagine on a un poste de radio, puis on s'intonise ça, là, comme au Cinépark dans le temps, ou...
C'est ça, en plein okay. ça. Là-bas, on a une fréquence spéciale, puis on va donner la fréquence.
Pas un micro qu'on met sur notre fenêtre, là, les vieux cinéparks, on mettait un micro au lieu de...
Non, c'est... Ouais, c'est ça. Le micro, le son sortait pas tout le temps très
c'est
bien.
Ça. Non, c'est non, ça. Mais... Avec votre système de son dans la voiture. Bon, il faut prendre le temps, il ne reste pas grand temps, mais il faut prendre le temps de parler des artistes, parce que vous avez dû avoir, comme on dit en bon québécois, des feedbacks. Ils font un spectacle, excusez l'expression, devant des chars. Là. Je veux dire, ils sont sur scène et ils s'adressent à des voitures. Comment ils voient ça, eux autres? Comment ils ont aimé l'expérience?
Ben c'est ça. Ça a été une des premières choses. Puis on est encore en train de travailler là-dessus pour s'assurer que l'artiste, surtout en humour, tu sais, en chanson, tu écoutes la chanson, en humour, tu as besoin d'avoir... Quand est-ce que tu passes à la prochaine blague? Ta blague a-t-il été drôle? Est-ce que ton numéro est un flop? Est-ce que ça va bien? On travaille encore là-dessus. Mais là, on est en train de regarder la possibilité... d'avoir peut-être quelques chaises devant la scène pour qu'il y ait au moins quelques gens, des invités spéciaux, qui pourront avoir donné aussi un feedback. On espère aussi que tout le monde qui va faire beau, que tout le monde aura les fenêtres ouvertes, puis qu'on puisse quand même entendre les gens rire. C'est sûr que ça a été une demande puis un questionnement des artistes, mais entre ne rien faire puis essayer quelque chose, on s'est dit ça vaut la peine d'essayer quelque chose. Puis tout le monde dit qu'il faut se réinventer. Ben nous, on essaie de se réinventer. C'est sûr qu'il va y avoir des ajustements à faire, sûrement. Tu sais, quand on fait quelque chose pour une première fois, c'est normal qu'il y ait des ajustements. Mais je pense que on sera capable d'avoir une expérience autant le fun et autant plaisante pour les artistes que pour les gens qui seront sur place.
Ben oui, puis c'est intéressant. Vous pouvez mettre des gros haut-parleurs, là, puis faire comme dans les émissions devant public, là, qu'il n'y a pas vraiment le public avec un bouton de rire là, quand la blague est bonne.
Mais, ouais, c'est ça.
Pour mettre de l'ambiance à l'artiste. Alors, je fais des blagues, ouais. Mais c'est évidemment, il faut se réajuster, puis ça doit être très, très différent en humour, là, comme vous l'avez bien dit. Le pouls de la salle, sentir tout ça, ils doivent se réajuster. Puis c'est là que je pense que c'est là qu'on voit, tu sais, c'est pas rien que des conteurs de blagues, c'est des professionnels, parce que donner un spectacle d'humour devant les voitures sans avoir ce feedback-là, ça doit pas être évident pour eux. Mais je pense que pour qu'il y ait du succès comme ça, ils ont dû bien le faire. Ça a dû bien aller. Là.
Oui, ben c'est ça. On va travailler très, très fort. Puis comme je vous dis, il va y avoir probablement des ajustements.
Ouais.
Mais tout le monde a cette soif-là d'être présent sur scène. Les gens ont la soif de venir voir un spectacle. D'après moi, ça me surprendrait pas qu'il y ait une coupe de tête qui sorte des fenêtres des voitures pour rire. Puis je pense que les numéros vont être assez excellents. Les artistes, c'est des excellents artistes, donc je pense que ça va bien aller. Là.
Certainement. Puis moi, j'adore le concept. Même s'il n'y avait pas de pandémie, ce serait le genre de j'irais quand même parce que tu es dans le confort de ta voiture, tu as du fun. Et je pense que ça pourra sûrement subsister au-delà de la pandémie, du confinement. Merci beaucoup, Maître Jean-Sébastien Boudreau de la Fondation Artera, le président. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Puis bonne continuation. Puis on invite les gens à aller vous voir.
Merci beaucoup, puis je vous souhaite un excellent été.
Bye-bye, bon été.
Bonne journée.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Allons maintenant dans le politico-juridique qu'on appelle, avec notre chroniqueur Matt Boily qui est là. Dans le fond, le Canada ne fera pas partie du Conseil de sécurité de l'ONU. On a vu cette semaine que les tentatives faites par le gouvernement de Justin Trudeau pour obtenir un siège sur le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué. Quels étaient les enjeux? Pourquoi ça n'a pas marché? Comment ça fonctionne? Matt Boily, ouais. Bonjour.
Ouais,
expliquez-nous ça.
Ben, écoutez, c'est compliqué, puis ça ne l'est pas, là. Écoutez, il y a du juridique là-dedans, il y a du politique, il y a du stratégique, il y a de l'économique, il y a un peu de tout, là. C'est important. Le Conseil de sécurité, ben, écoutez, c'est l'ONU, et c'est, d'abord, c'est pas un siège permanent, on s'entend, là. Ce sont des sièges qui sont amovibles, donc qu'on peut retourner, là, toutes les deux ans, il y a des sièges qui se trouvent et qui se ferment, et ça dépend des sections du monde. Il y avait du bon pour la candidature du Canada, mais lorsqu'on regarde tout ça froidement, là, il y avait toute une côte à remonter. Là, parce que faut comprendre que c'est des stratégies. Hein. Vous avez vu le vote cette semaine, là, on a décrié en disant que le Canada avait été bon ridiculisé, etc. Il y a quand même eu 108 votes. Là, il y a 189 ou 190 pays membres là, à l'ONU. 192, en tout cas, autour de ça. Il faut comprendre que comme il y avait deux postes de disponibles, hein, l'Irlande et la Norvège l'ont eu à la place du Canada. Mais ils ont eu, eux autres, 100, dans un cas, je pense que c'est 100 ou 138 votes, l'autre 128. Donc, c'est un peu plus que le Canada, parce que comme il y avait deux postes, j'imagine que les gens votent deux fois, parce que c'est des... Ils ont droit à deux postes, donc ça donne... Parce que sinon, on ne peut pas avoir 380 votes, là, pour alors qu'il y a 190 membres.
Comment ça fonctionne, les votes?
Ben c'est ça, là. Non, il y a deux postes, donc ils ont deux votes.
C'est du travail de coulisses?
Oui, ben, c'est exactement ça. C'est un peu comme les Jeux olympiques, là. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a des stratégies là-dedans. On a même vu la France cette semaine... Parce que la France veut garder son hégémonie sur certains pays d'Afrique, comme l'Allemagne le fait également pour d'autres pays, etc. Chacun a des petits, ils ont leurs pions, le Royaume-Uni aussi. Il faut comprendre la France, le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis, la Chine, États-Unis, Royaume-Uni, France et Russie sont membres permanents. Ils sont membres de l'ONU permanent, sont là tout le temps. Alors, l'organisation comme telle, c'est 5 membres permanents-là. Puis les membres qui ne sont pas permanents, ben, se votent entre eux aux 4 ans. Puis comme M. Trudeau a dit cette semaine, c'est pas faux non plus, il dit, nous autres, on a eu juste 4 ans ou 4 ans et demi pour faire préparer notre affaire. Ben, certains journalistes ont dit, ben, hey, 4 ans pour une campagne, coudonc, c'est pas hier, là, vous avez eu le temps. Mais on appelle ça en anglais des long shots. Hein. C'est long. C'est des processus, c'est diplomatique, c'est long. François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires internationales, l'a expliqué cette semaine. Écoute, il rencontre des gens et il y a des longs processus. Il faut comprendre que le Canada, c'est pas le pays qui est le plus actif sur certains plans. Par exemple, ils ont vendu des armes à l'Arabie Saoudite. Il y a eu des problèmes avec Israël également. Alors, on a critiqué Mme Freeland, a des petits problèmes avec la Russie. Bien ça, c'est tous les pays qui sont satellites à côté qui se disent... Ils se font dire par la Russie, ben là, votez pas pour le Canada, ils sont pas pour vous, telle affaire. Telle autre affaire, bon, on est pour les droits de l'homme. L'Arabie Saoudite est pas trop contente de ça, fait qu'elle dit à ses amis, votez pas pour ça. Bon, les Français peuvent dire à certains pays qui sont amis au niveau de. Parce qu'ils veulent pas perdre le contrôle qu'ils ont dessus, vous avez pas besoin du Canada. Le Canada, déjà, les Américains qui représentent sont liés ensemble. Écoutez, il y a tous ces jeux de coulisses-là qui font en sorte que même s'il y a des votes, un peu comme les Jeux olympiques à l'époque, là, il y avait des petites enveloppes brunes là, qui se passaient. On en a parlé cette semaine, là, il y avait l'anniversaire de la demande de 25 ans que Québec avait demandé les Jeux olympiques en 95, je me souviens de ça. Et puis ça avait été, bon, on avait fini troisième au vote finalement. Alors on disait, écoutez, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, alors qu'on a découvert que les Jeux sont les cités, il y avait eu des enveloppes qui avaient coulé un peu partout. Alors écoutez, je dis pas que c'est pareil, mais il reste qu'il y a beaucoup, beaucoup de diplomatie à faire. Puis, c'est pas juste un jeu de compter, c'est de savoir quelle alliance les pays vont faire ensemble. Parce que lorsqu'ils votent pour... Puis là, la Norvège, qui est un pays quand même producteur de pétrole, qui est un pays qui est quand même assez neutre au niveau politique, mais quand même au niveau économique, quand même large. Et puis, l'Irlande aussi, c'était pas le pays le plus doux à l'époque, là. Souvenez-vous des problèmes qu'ils ont eu avec l'IRA et toutes les guerres de religion qu'ils ont eu en Irlande. Ça n'a pas toujours été facile. Maintenant, ils ont des girons, ces pays-là. Alors, l'Irlande, avec le Royaume-Uni, bien évidemment, c'est plus facile d'avoir les pays qui sont plus d'affinité avec ces gens-là. Donc, le Canada, là-dedans, c'était pas une joute qui était facile, le Canada. Quand François-Philippe Champagne disait, évidemment, M. Trudeau disait la même chose cette semaine en disant, écoutez, on a quand même évolué, tu sais, je veux dire, quand tu perds, tu dis pas, c'est plate, puis, misère, oh malheur, Jérémy, je suis mort. Non, t'essaies de trouver les côtés positifs à tout ça, mais c'est pas évident parce que les tentations qu'on est allé chercher dans d'autres pays pour se faire du capital avec ça puis essayer d'avoir un peu plus de force au niveau international, c'est important. C'est l'ONU, ça prend des décisions. Puis le Conseil de sécurité, lui, lorsqu'il prend des décisions, dans votre coude, M. Bernier, vous avez bien fait ça.
Désolé.
Quand il prend des décisions, le Conseil de sécurité, bien, il y a des décisions importantes qui peuvent se prendre. En droit, vous savez, les guerres, des fois, ou certains traités, bien, ça se fait au Conseil de sécurité, c'est là que ça se décide. Parce que, maintenant, si un pays, par exemple, qui peut être envahi, on l'a vu dans le passé, dans certains cas, bien, c'est le Conseil de sécurité qui décide s'il intervient ou pas. Souvenez-vous, dans le temps de la guerre en Irak, bien, le Conseil de sécurité avait décidé des choses, et puis finalement, de ne pas y aller. Les États-Unis avaient décidé d'y aller. Le Canada avait décidé, c'était Jean Chrétien qui était premier ministre à ce moment-là, de ne pas y aller. Mm-hmm. Mais ce sont des décisions importantes. C'est important d'avoir de l'influence. Mais il ne faut pas penser que, parce que tu es membre d'un conseil de sécurité, que tu as nécessairement de l'influence. Tu peux en avoir autrement aussi, parce qu'il y a d'autres organismes mondiaux qui existent dans lesquels le Canada y est. Bon, on parle du Commonwealth, on parle de d'autres organisations internationales où le Canada est présent. Maintenant, c'est sûr que si tu es présent dans plus d'endroits, dans des endroits de prestige, comme le Conseil de sécurité de l'ONU, ben ça aide beaucoup à la crédibilité d'un pays. Puis évidemment, tout ça, ça a des aspects économiques. Parce qu'en quelque part, si au niveau, on parle d'armement, on parle d'économie, entre guillemets, de guerre, ça fait vivre des... Vous savez, les Américains, c'est pas pour rien que souvent, ils cherchent à aller créer des litiges dans des endroits. Parce qu'il y a une économie souterraine de ça, une économie de guerre. Et là, on a beau dire... On fera pas de contrat avec d'autres pays, on ne prendra pas d'armement. Ça se fait pareil. C'est la réalité, ça. Alors, donc, ces choses-là, faut que les gens aient en tête que c'est pas juste de dire on est un. Parce que, vous savez, nous autres, les avocats, on va être sur un conseil de sécurité, donc on va être, entre guillemets, les juges de ce qui se passe sur la planète, puis on va essayer de décider pour ce qui va arriver dans d'autres pays, etc. Mais ça, ces choses-là, c'est pas juste de juger, entre guillemets, comme avocat, comme juge ou comme participant politique à une organisation mondiale, mais c'est d'avoir un poids politique sur ces décisions-là. Puis ça amène d'autres conséquences économiques importantes pour un pays comme le Canada. Alors, faut comprendre ces éléments-là pour être capable de voir jusqu'à quel point c'est important aussi, même si on n'a pas eu le siège en question, puis même si c'est pas là qu'on va pouvoir débattre, ben on a quand même fait des pas parce qu'on a quand même communiqué avec beaucoup de pays. Il y a eu 108 votes, je le rappelle. C'est pas rien, c'est même si ils ont fini troisième, mais il y a quand même là, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on ne se ramasse pas devant rien. Mais ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ça c'est clair.
OK, mais c'est quoi l'impact sur le premier ministre, sur Justin Trudeau?
Ben, écoutez,
il y a un impact politique, est-ce que ça peut nuire à sa réélection?
Au niveau international, il est certain d'une chose. C'est sûr que Justin Trudeau, le fils, c'est pas le père, il n'a pas la même crédibilité, sans être méchant, là, j'enlève rien à Justin Trudeau, mais il n'a pas la même crédibilité au niveau international. Lorsque Justin Trudeau parle, c'est pas la même chose que lorsque Vladimir Poutine parle, lorsque Emmanuel Macron parle.
Mais pourquoi? Parce qu'il est pas assez méchant?
Non, c'est pas la question, c'est la notoriété internationale. Vous savez, ça s'acquiert. Madame Thatcher, lorsqu'elle a été élue en Allemagne, là, personne ne la connaissait, puis l'ancienne première ministre britannique aussi, personne la connaissait, puis elle est devenue la femme de fer. Madame Thatcher, en Europe, c'est rendue la plus respectée des politiciens européens.
Mais alors, comment on serait...
Ben, c'est avec le temps qu'ils font ça, et c'est avec leur activité internationale. Or, le Canada, il faut comprendre, le Canada, depuis les années Harper, le Canada avait décidé de se retirer de ces milieux-là, parce qu'ils disaient, on va s'occuper d'abord nous autres, qui n'étaient pas bêtes non plus, mais on s'est retirés. Et là, lorsque les libéraux sont venus, il y a 4 ans et demi, ils ont dit, on va essayer de reprendre l'image canadienne. Mais tu peux pas reprendre une image comme ça lorsque, pendant 10 ou 12 ans, tu as laissé ça aller. Alors, ouais. Il est là le problème. Évidemment, ça fait mal à M. Trudeau au niveau international. Au niveau national, oui, il peut y avoir une risée, certaines choses, mais on voit les sondages. Là. Écoutez, avec la COVID, avec ce que le gouvernement du Canada a fait, je suis pas sûr, moi, que si le gouvernement allait en élection demain matin, qu'il reviendrait pas majoritaire. Parce que là, il y a un sentiment de sympathie. Les gens qui reçoivent, on a parlé de la CPU, de la PCU à l'émission, là, les gens qui se trouvent les chèques, c'est du concret. Là. Ils disent, écoutez, le gouvernement canadien fait quelque chose pour moi. Le gouvernement du Québec, même si M. Legault s'est fait critiquer un peu, je sais qu'il est dans un sondage, il est encore au-dessus de 80% de gens qui l'appuient puis qui trouvent qu'il fait bien le travail. Alors, en niveau de crise, lorsque les gouvernements viennent sur le terrain, on avait critiqué M. Trudeau un peu au début, on se souvient, là, il y avait eu des mauvaises sorties. Bon, là, évidemment, ça l'a changé un peu. Là, la Chambre des communes ne siège plus. C'est certain que c'est pas une image parfaite qu'il aimerait avoir. Ça le ternit probablement un peu son image, pas mal plus au niveau international. Au niveau national, ben, on a passé un petit peu pour des ticounes. Cette semaine, là, faut le dire, parce que se présenter à un siège aussi prestigieux puis pas être élu, alors que c'est des pays qui le font quand même, l'Irlande et la Norvège ont fait la demande depuis de nombre d'années, préparer ça depuis peut-être 7, 8, 9 ans. Mais c'est quand même un échec pour le gouvernement canadien. Alors ça, faut le reconnaître. Mm-hmm. Puis penser que, écoutez, je sais que pour les Jeux olympiques, les gens se reprennent souvent, là, quoi que maintenant, il n'y a plus beaucoup qui en veulent, ça coûte trop cher. Mais il reste que c'est une petite tâche là, sur l'image internationale du Canada. Puis il va falloir qu'il continue à travailler cet aspect-là pour être éventuellement reprendre un siège là-dessus. C'est pas la fin du monde là, entre nous autres, là, mm-hmm. mais mettons qu'il aurait pu s'en passer.
Oui, comprends. Merci, Matt Boily. On se reparle tout à l'heure pour la finale de l'émission de la saison. Bye. À tantôt, bye.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
C'est les vacances qui arrivent bientôt. On en a parlé durant la COVID-19, toute une situation une crise. Et il y a des gardes partagées. Il y a eu déjà des litiges en lien avec cette garde partagée-là en temps normal. Certains servaient comme prétexte de la COVID-19 pour ne plus envoyer les enfants chez les autres parents. Et maintenant, on se pose des questions. La réouverture des frontières qui devrait arriver au mois de juillet, peut-être que les gens se remettront à voyager. Et ce sera quoi l'impact sur les enfants, ces gardes partagées-là? Et on en parle avec Maître Sharon Otis. Bonjour.
Oui, bonjour, Maître Bernier.
Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez voir beaucoup de gens s'adresser aux tribunaux? Parce que j'imagine qu'un parent, en ce moment, pourrait dire « Je veux pas que tu voyages avec mon enfant parce qu'il y a un risque d'attraper la COVID-19. »
Bien, c'est sûr que dans l'éventualité où un enfant est plus à risque, un système immunitaire un peu plus faible, et tout dépendant, bien évidemment, du lieu et de l'endroit où ils vont, c'est sûr qu'il y aura assurément des parents qui vont s'adresser aux tribunaux pour dire « Regardez, voici ». Mon enfant, il est à risque. L'intérêt de l'enfant au niveau de sa santé, sa sécurité est compromise. Cependant, moi, où est-ce que je vois beaucoup plus une problématique, c'est les voyages à l'extérieur. Dans l'éventualité, on réouvre enfin les frontières. Faut faire attention lorsqu'on voyage seul avec un enfant parce que, bien évidemment, il nous faut une lettre de consentement. Et il faut aussi aller dans des pays où ces pays-là sont signataires de la Convention de la paix.
OK, dans quel sens?
Dans quel sens? Parce que la Convention de la paix, ce que ça permet, là, c'est d'aller rechercher l'enfant. OK, c'est-à-dire que s'il y a une problématique, l'enfant ne peut pas être détenu, ne peut pas rester dans ce pays-là s'il n'est pas signataire. Mm-hmm. S'il est signataire à ce moment-là, ils vont localiser l'enfant, ils vont prendre les mesures provisoires pour prévenir les dangers et c'est presque des enlèvements là par rapport à un parent d'un enfant par rapport à un parent. Donc ils vont prendre toutes les décisions et ils vont prendre toutes les procédures judiciaires là afin que l'enfant puisse retourner dans son pays d'origine. Mm-hmm. Comme par exemple, il y a certains pays qui ne sont pas signataires, entre autres la Tunisie. Donc à ce moment-là, Il y a les tribunaux, je dirais, qui sont très frileux. Et je dirais même qu'il y a une tangence jurisprudentielle à l'effet que si un pays n'est pas signataire de la Convention de la Haye à ce moment-là, s'il y a une demande pour faire en sorte d'aller voyager à l'extérieur, à ce moment-là, c'est refusé, là.
Je comprends. Donc, ça, c'est une précaution qui est générale, qui n'est pas liée à la crise. C'est que à tout moment, bon, un enfant qui voyage, on a vu des cas d'enlèvement de parents qui vont. On a vu des pères, des mères qui déploraient ça, qui étaient prêts d'aller rechercher l'enfant parce que l'autre parent était parti avec lui. Mais si on revient encore. Parce que là, ce qu'on sait, bon, on a comme perdu l'habitude de voyager, évidemment. Et tout ça. Peu,
on voyage dans notre cour.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de ventes qui se fait, des piscines et des kits de patio. Mais on peut quand même anticiper un problème. Déjà dans certaines gardes partagées, c'est à couteau tiré. On ne s'entend pas sur certains points. Mais tout à l'heure, vous parliez là, justement si l'enfant a une condition. Bon, évidemment, là, peut-être le risque d'attraper la COVID est plus dangereux. Mais si l'enfant n'a pas de condition, il risque d'avoir des parents qui vont dire « Non, je ne veux pas que mon enfant voyage parce que le risque peut augmenter dans certains pays, mettons aux États-Unis, il y a plus de cas. » Est-ce que c'est suffisant comme motif d'empêcher un parent de voyager avec l'enfant?
Je vais vous dire que c'est du cas par cas. Mais cependant, il faut se référer au jugement. Si jugement, il y a. Est-ce que il y a un des parents qui a perdu un attribut de l'autorité parentale ne lui permettant pas de voyager ou quoi que ce soit ou qu'il n'a pas besoin d'autorisation, là, le fameux formulaire à voyager seul avec les enfants, qu'il peut lui-même procéder là, seul à la demande des passeports des enfants, etc. On voit ça. Mais j'anticipe bien évidemment là une problématique, c'est-à-dire qu'il faut toujours être transparent par rapport à l'autre. C'est-à-dire de lui dire exactement où est-ce qu'on va, que ce soit à l'intérieur du Canada ou à l'extérieur, il faut que l'autre parent soit en mesure, dans l'éventualité où il y a une urgence, qu'il soit en mesure d'entrer en communication avec l'autre parent je pense que c'est juste normal.
Mais Maître Otis, parce que là, c'est différent là, ce qui se passe là. Est-ce que maintenant, c'est suffisant tout ça? Moi, ce que j'anticipe, c'est que il y a des parents qui vont aller devant les tribunaux, ils vont dire c'est pas comme habituellement, mon enfant, habituellement, je le laisse voyager avec l'autre parent, mais là, il y a la pandémie. Et est-ce que cette inquiétude-là, c'est suffisant pour empêcher l'autre parent, mettons, en passant devant un juge, de voyager?
Ben, ça dépend. Vous comprenez que dans l'éventualité où les deux parents se sont concertés au préalable pour retourner les enfants, que ce soit en matière préscolaire ou au niveau primaire, si les deux parents étaient déjà d'accord, vous comprenez, à ce que l'enfant retourne à l'école, etc., vous comprenez qu'il doit y avoir des bons motifs pour convaincre le tribunal que l'enfant, la santé et la sécurité de l'enfant sur l'article 33 du Code civil du Québec est compromise, là. Donc, on ne peut pas s'adresser au tribunal comme ça. Ça ne peut pas être... S'il y a une crainte, elle ne doit pas être subjective, elle doit être objective. C'est-à-dire qu'une personne placée dans la même situation prendrait la même décision par rapport à l'enfant. Si c'est un enfant qui est déjà malade, qui a déjà des problèmes respiratoires, qui a déjà un background au niveau médical, à ce moment-là, vous comprenez que ça peut convaincre, je pense, le tribunal de faire en sorte que on ne prenne pas de risque à tout le moins pour cet été, pour cet enfant-là. Cependant, est-ce que c'est justifié dans tous les cas? Je ne pense pas.
Mm-hmm. OK. Donc, si même s'il y a un risque supplémentaire, déjà, si les parents se sont... Moi, en tant que parent, j'ai déjà dit que c'est correct pour l'école. Ça va être malvenu que je dise, ben non, je veux pas qu'il voyage. Ça, je comprends bien ça.
C'est bien évidemment si les mesures sont prises. Parce que vous comprenez que des parents pour lesquels il y en a qui sont moins à cheval sur les mesures de sécurité, c'est-à-dire désinfection des mains, ouais, la distanciation, etc. Il ne faut pas oublier que la loi sur la santé et de l'hygiène publique doit quand même tout de même s'appliquer. Là.
Je comprends. Il faut que le parent démontre qu'il va respecter certaines règles. Et également, j'étais en train d'oublier ce que je voulais demander, mais c'est pas grave. Et là, je vais complexifier un petit peu la chose. Bon. Advenant là, qu'on ouvre les frontières, mais qu'il y a une recommandation du gouvernement, comme on a vu, pas une obligation, mais une recommandation de ne pas voyager. Mais la frontière est ouverte, on a le droit de voyager, mais le gouvernement recommande de ne pas voyager à cause de la COVID-19. Est-ce que là, un parent peut empêcher l'autre d'aller en voyage avec l'enfant?
Bien, je pense qu'en posant la question, vous y avez répondu par vous-même. On parle de recommandation, on ne parle pas, vous comprenez, de refus catégorique de voyager avec l'enfant. Mais je pense que tout ça, là, Mme Bernier, ce sera du cas par cas. Et j'invite les gens, à discuter avec un avocat avant d'entreprendre des démarches pour voyager à l'extérieur du pays, parce que on a vu là, toutes les problématiques engendrées là, par rapport aux transporteurs aériens, les remboursements, les crédits, etc. Et deux, bien évidemment, j'incite les parents à se parler parce que vous savez ma fameuse phrase que je répète presque à toutes les émissions.
Allez-y.
Couple un jour, parent toujours.
Oui.
Donc, c'est toujours mieux la discussion. L'enfant ne se sent pas dans un conflit de loyauté. L'important, je pense, c'est que peu importe le parent qui amène l'enfant en vacances, c'est de passer du bon temps en famille et de rendre l'enfant heureux et de créer une proximité avec l'enfant, des souvenirs, etc. Donc, je pense pas que... Dans le bien-être de l'enfant, je pense que les parents doivent se parler en premier lieu et si il n'y a pas d'assentiment des deux parents, bien évidemment, de s'adresser aux tribunaux. On est là pour ça. Cependant, il faut avoir quand même, je vous dirais, des fichus de bonne raison, là, puisque là, on est présentement en matière d'urgence. Mm-hmm. Comme vous le savez, les palais de justice, en tout cas, tout le monde pour le district judiciaire de Québec, a réouvert là, à partir du 1er juin dernier. Donc, c'est sûr que les urgences, il faut avoir une situation d'urgence. Et une situation d'urgence, la définition, c'est quelque chose que le jugement, au fond, ne pourra pas remédier. Mmh. Alors, il faut que les parties là, soient conscients du risque et que ça ne passe pas et ait un plan B, peut-être, pour des vacances éventuelles.
Je comprends. Donc, c'est pas automatique, mais en tout cas, avec la recommandation, je serais curieux peut-être de voir quelqu'un plaider ça, dire ben le gouvernement dit de pas y aller, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, je comprends bien le message. Faut pas non plus s'adresser aux tribunaux. Mais, Maître Otis...
Laissez-moi quelques semaines, Maître Bernier, je vais vous aider.
On en reparlera. Hey, il nous reste une minute, mais ma question de tout à l'heure m'est revenue aussi. Est-ce que le parent qui part pas d'assurance, parce que là, on sait qu'avec la COVID-19, ça va être plus difficile d'être assuré. Peux-tu dire, moi, je pars pas d'assurance avec l'enfant, ça? Est-ce que c'est un motif que l'autre parent va dire non, tu pars pas?
Bien, c'est parce que c'est certain que l'assurance est là pour couvrir les frais médicaux de l'enfant. Donc, c'est tout à l'avantage du parent. Vous comprenez? Personne ne veut tomber, je pense, en premier lieu, malade à l'extérieur du pays.
Ça mettrait à risque l'enfant, là. Ça veut dire que là-bas, il n'y aurait peut-être pas de moyens.
Et non seulement ça, c'est qu'il y a certains centres hospitaliers où est-ce qu'on doit acquitter les frais dans l'éventualité où on n'a pas d'assurance, vous comprenez, qui couvre les dépenses engendrées. Donc, regardez, faites attention.
Mais moi, je pense que ça serait un motif de pas voyager avec l'enfant si on n'est pas assuré. Puis, de toute façon, on ne conseille pas à personne de voyager pas assuré. Là. On tient à le dire. parce que ça peut... on a vu des histoires d'horreur dans ces cas-là. Merci beaucoup, Maître Otis. Toujours éclairant. On se reparle, puis on se reparle sûrement à l'automne. Là. On espère revenir parce que c'est la dernière aujourd'hui émission de la saison. Merci.
La cerise sur le samedi.
Bye bye.
Merci. Bon été. Bonnes vacances estivales à tous. Au revoir.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Il y a deux nouvelles judiciaires dans le domaine criminel qui ont retenu notre attention cette semaine. Il y a un homme qui a été accusé de délit de fuite. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, un camionneur qui a vraiment frappé un véhicule. Le véhicule s'est ramassé dans le clos et il s'est sauvé. C'est vraiment dommageable. Et l'autre nouvelle, André Boisclair, qui nouvelle plainte contre lui. Il y a déjà des accusations dans son dossier. Et on voulait faire cette revue judiciaire avec notre collaboratrice Nicole Gibault. On garde le meilleur pour la fin, puisque c'est la fin de l'émission cette saison. Bonjour, Nicole.
Bonjour à vous deux.
Bon, puis il y a Maître Boily qui est là pas loin aussi. On finit en beauté. Nicole, on fait notre revue judiciaire. Là, l'histoire du délit de fuite, c'est quand même particulier. Là. Cet homme-là s'est sauvé dans son pays, en Inde, après avoir tué un automobiliste.
Oui. C'est vraiment quelque chose d'assez... Ça a l'air d'un film, mais qu'on veut pas qu'il soit réel, de toute évidence. Là. Mm-hmm. Alors oui, c'est survenu en août 2017 sur l'autoroute 30 à Brassard. Et tu as raison, j'ai vu la vidéo. Je me souvenais plus, parce qu'on l'avait vu à l'époque, parce que quand le procès est arrivé, etc. Mais... incroyable, là. C'est vraiment incroyable. Ce qu'on voit, c'est tragique, surtout quand on connaît la fin, hein, parce qu'on regarde le poids lourd, c'est un immense poids lourd. Là.
Hey, c'est là qu'on voit qu'on est vulnérable en voiture, hein, ouais, comparé à ces mastodontes-là.
C'est ça. Un gros poids lourd.
Comme on dit.
Ouais, il rentrait assez vite, merci. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'absence. Et puis c'est ça qui m'a frappé, l'absence de trafic. Total. Il n'y en a pas de trafic. Il n'y a pas personne. Mm-hmm. Il n'y avait pas personne sur la route. Et il a continué son chemin, selon la vidéo, on le voit très bien, là. Et on voit l'impact, là. Mais c'est incroyable. Puis ce que je ne savais pas, c'est que aussi le lampadaire a tombé sur le véhicule, tuant la personne sur le coup, apparemment. En tout cas, il y a un ensemble de circonstances. Tout ça pour dire que, il s'est sauvé. Mais il y a eu un procès. Il s'est sauvé non seulement de la scène, mais il s'est sauvé dans les 48 heures, si je ne m'abuse. Je pense que c'est à peu près ça. Il s'est réfugié. Il dit qu'il est allé voir sa famille, sa mère avait besoin de lui, aux Indes. Bon. Il a présenté ceci devant le tribunal. Il a expliqué que ça c'était dans ce cas-là pourquoi il était parti rapidement. Il a également expliqué qu'il était retourné sur les lieux, mais que ça l'avait rendu tellement malade de voir la scène qu'il
était sous
pas
le choc.
Capable de se contenir. Donc, il était dans un choc émotif et qu'il se souvient plus de rien. Tu sais, c'était comme... Bon. Il a tout présenté ça, mais il n'y a rien de ça qui a été retenu de toute évidence. Il a été déclaré coupable. Mais ce qui était surprenant, c'est qu'il revienne. Alors, faut pas oublier que ce monsieur-là, pour les raisons qui lui appartiennent, il y avait un mandat d'arrestation canadien, évidemment, là. Puis, mais il l'a su. De toute évidence, il l'a su qu'il y avait un mandat d'arrestation. Il est revenu au Canada. Il y a eu une réception assez directe.
Ouais.
On l'a arrêté tout de suite.
Mais au moins, il est revenu par lui-même.
Mais il est revenu.
Il n'y a pas eu d'extradition.
Mais c'est ça. Ça m'a frappé. Pourquoi? Parce qu'évidemment, sur un plaidoyer, il n'a pas plaidé coupable. Mm-hmm. Alors, il a fait un procès. Donc, évidemment, il a le droit à son procès. Il a été déclaré coupable. Et là, c'est sûr qu'il va avoir des représentations sur sentence. Premier élément que la défense va soulever, c'est qu'il est revenu.
Ben oui.
C'est évident. Et dans la colonne des facteurs atténuants sur une sentence, ça n'atténue pas les décès, ça n'atténue pas les lésions corporelles parce que les trois autres personnes sont très mal en point, mais très mal en point. Puis un décès, c'est fatal. C'est sûr que c'est de l'emprisonnement, mais quelle sera de la nature des plaidoyers pour diminuer, parce qu'on dit, écoutez, il aurait pu rester là puis ne plus jamais revenir.
Mais Nicole, j'ai pas tout regardé, mais il doit y avoir des accusations aussi de conduite dangereuse, là, voir le véhicule, l'allure qui allait, qui n'a pas ralenti, ou ils se sont concentrés sur le délit de fuite, ou...
Ben, ce que je vois dans ce qu'on peut lire là, sur les différents médias, ce serait évidemment la question, l'accusé, il a été trouvé coupable de délit de fuite. Moi aussi, j'étais un petit peu, avait pris la fuite, là. J'ai pas vu, à moins que ça soit aussi là-dessus, mais il est accusé de délit de fuite et il jure de s'être arrêté après l'impact.
Ouais, j'imagine.
Alors, il n'a pas été accusé d'homicide aussi?
Moi, c'était le délit du fait d'avoir fait un accident lorsqu'il y a des morts. Ouais, là. Mais j'imagine la couronne, les conséquences sont aussi graves que les autres accusations. Donc, j'imagine qu'ils se sont concentrés là-dessus. En tout cas, c'est des choses à ne pas faire fuir un accident. C'est un acte criminel.
Oui, parce que c'est ce que je lis, là, c'est délit de fait ayant causé la mort ouais. et des lésions corporelles. Alors, c'est sûr que.
Ils se sont concentrés sur une accusation où est-ce qu'ils savaient qu'il y avait des chances de gagner. Nicole, autre dossier, André Boisclair. Qu'est-ce qui se passe oui. avec lui, là?
Bien, André Boisclair, d'abord, tu as bien fait de dire qu'il fait face à une plainte. Puis c'est important qu'on le souligne parce mm-hmm. que dans le premier dossier, on se souvient qu'il a été mis en état d'arrestation avec un mandat visé, s'est présenté au poste. On a vu tout ça à la télévision.
Il est accusé.
Évidemment, il est accusé d'agression sexuelle armée. Puis bon. Mais ici, il fait face à une autre plainte d'agression, une autre plainte, mais c'est pas mm-hmm. une accusation. Très différent. L'enquête est en cours. Les policiers vont recueillir la preuve, évidemment, vont le soumettre au DPCP, au procureur de la Couronne, qui prendra une décision s'il y a preuve suffisante et qu'il y a matière à déposer des accusations, ce qui est le cas dans le premier dossier, c'est déjà fait. Mais mm-hmm. dans celui-ci, il s'agit d'une plainte. Et il s'agit de plaintes puis pour des actes qui se seraient passés probablement en 2012 et peut-être même plus loin que ça. Et c'est en enquête présentement. Vont-ils ou non déposer des accusations? Ça va demeurer le DPCP qui va avoir la, mm-hmm. la décision finale.
Est-ce que ça peut aggraver son cas ou ça va être séparé de...
Va nettement être séparé parce que je suis certaine que n'importe quel avocat, d'abord, premièrement, on n'entendra pas les deux dossiers en même temps. Mettons, là, on va prendre pour acquis là, que peut-être qu'il y aura des accusations de déposer, mm-hmm. mais à moins qu'il y ait un règlement puis que cette personne-là j'amène tous mes dossiers à la cour, puis je veux tout régler en même temps, puis on va faire une entente, etc. Mais c'est ici, on parle de séquences très, très, très longuement séparées dans le temps, pas dans le même contexte, pas du tout de la même chose. C'est sûr que tout dépendant quand les accusations, si des accusations tombent, en quelle année, ben est-ce qu'on va vouloir s'en servir advenant un plaidoyer ou advenant qu'il est reconnu coupable sur le premier dossier où il y a bel et bien des accusations de déposer, mm-hmm. C'est sûr qu'on peut pas se servir de quelque chose d'antérieur. Si c'est arrivé en 2006, puis l'accusation ou 2012, puis l'accusation pour laquelle il fait face devant les tribunaux présentement est en 2014, et on ne pourra pas dire il est accusé dans un autre dossier. On mm-hmm. va tout de suite se remettre les pendules à l'heure en disant c'est une accusation, il n'y a pas de procès, présomption d'innocence, elle n'est pas là.
Ben, c'est ça, elle n'est pas là. Puis je pense pas qu'on ait. C'est comme illégal de faire une preuve sur la réputation qu'il y aurait ou qu'il aurait fait d'autres actes, là, à moins que ça soit.
Il faut faire.
Ça demeurera à la couronne de décider si. Parce que c'est sûr que. Une plainte de c'est-à-dire une preuve de fait similaire est toujours possible, c'est complexe. Mm-hmm. Les faits similaires, ça dit bien ce que c'est. Est-ce que c'est des faits similaires? Puis, écoutez, là, je voyais dans les documents ou dans les médias, si vous avez d'autres informations, alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Peut-être pas.
Effectivement.
Mais c'est la même chose dans Roson, la même chose dans les mm-hmm. c'est ça, exactement. Dans les autres dossiers. Toute personne qui aurait de l'information et où voudrait, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera pas.
Ouais.
Mais c'est sûr que c'est une chose à la fois, là. Ouais. Puis, la couronne pourra jauger et juger de la pertinence de l'ensemble de tout ça pour voir s'il mm-hmm. y aurait lieu à présenter une preuve de fait similaire ou autre, dépendant de ce
que. Que justice suive son cours.
C'est ça. À suivre. Matt Boilly avait des statistiques parce que, c'est la dernière mission de la saison. Puis merci à vous deux, d'ailleurs, pour toute cette belle saison de vulgarisation juridique et aux autres collaborateurs aussi. Vos statistiques, Matt Boilly?
Je voulais parce que. On a fini la session l'été dernier en faisant certaines statistiques. Hein. Vous vous souvenez, on était 4 ou 5 en studio. Aujourd'hui, on a notre invité de marque, la juge Gibault. Alors, je voulais en profiter d'abord pour dire qu'on a fait, Madame la juge, avocat à la barre avec son ancêtre, on a fait au-dessus de 900 sujets différents de niveau judiciaire, juridique ou à tendance. Parce que vous savez que l'été dernier, on était un petit peu plus, c'était 2 heures en onde par jour, donc des fois, il y avait côté artistique et tout ça. Mais cela étant dit, les analyses, que ce soit le juge Gibault ou d'autres, Maître Otis, on a eu, Cindy, qui est, comment s'appelle, Madame Thériault, excusez, celle qui fait
J'ai pas le nom, c'est pas grave. En fait, on a eu beaucoup de gens qui sont intervenus.
Le cyber...
Oui, Cathy Tétrault.
Cathy Tétrault, Madame Tétrault. Alors, on en a plusieurs. Et j'ai juste fait j'ai relevé quelques chiffres. On avait fait 504 sujets à venir jusqu'à la fin d'août l'an dernier. Et cette année, les émissions de week-end, là, on sait qu'avec la COVID, on était un petit peu pas charrié, mais disons qu'on était plus en balade plus vite le vendredi au lieu d'être en direct le samedi et dimanche, mais quand même les émissions de fin de semaine, on a fait au total 240 sujets différents. Je parle de chroniques, comme le juge Gibault et moi j'en fais également et les autres. Mais on a également répondu à 158 questions du public, mm-hmm. Ce qui nous fait un grand total de, j'ai dit 904 tout à l'heure, excusez, je me suis trompé de deux. On a fait 902 sujets depuis moins de 2 ans, un peu plus de 18 mois, avec j'appelle mon avocat et avocat à la barre. Alors, bravo Maître Bernier d'avoir fait ça, bravo à la juge, bravo à tout
merci.
Le monde qui ont contribué à tout ça, mais ça pour vous dire que la justice et les affaires juridiques, les affaires judiciaires, ben ça intéresse, puis il y avait des gens sceptiques au départ, on n'est pas le capitaine Bonhomme, là, mais on les a confondus. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses. Puis l'équipe est là et puis on espère. Et écoutez, on fait à la blague des fois, Madame la juge, Maître Bernier, moi, quand on finit l'émission en micro fermé, il dit tout le temps et à la semaine prochaine. Et moi, je rajoute quand le micro est fermé, si Dieu le veut. Alors, on verra. C'est comme la 2 de Grand Prix. Je ne sais pas si vous en souvenez dans le temps. Là, c'était un peu comme ça, chaque semaine. Donc, on verra là, si à l'automne, on devrait revenir et puis on aura d'autres sujets intéressants avec Madame la juge. Puis bien d'autres invités.
Alors, c'est un domaine qui se démocratise, puis Madame la juge Gibault et Maître Boily et moi aussi, on le prouve bien, on essaie de vulgariser, de faire comprendre aux gens. Les gens veulent comprendre, puis c'est important de continuer dans ce sens-là. Merci à vous deux, puis passez un bel été.
Merci à vous deux aussi. Au revoir à tout le public également.
Oui, bye-bye. Merci au public, merci à toute l'équipe. On se retrouve... la saison prochaine, j'espère, si Dieu le veut.
Eh oui!
Merci, bye-bye.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.